I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mise à mal, la FAQ. Bonjour les applaudiqueurs, bienvenue dans cet épisode un peu spécial, un épisode de Noël. Non, pas du tout. Un épisode juste vous et moi, en fait juste moi là actuellement, je parle tout seul devant un micro. Un épisode où je réponds à vos questions parce qu'on m'en pose de plus en plus sur Instagram, en DM. D'ailleurs, je vous invite à m'écrire si vous en avez envie. Je réponds à tout le monde et j'y prends beaucoup de plaisir. Mais je me suis dit que les réponses que j'apporte au cas par cas pourraient peut-être intéresser un plus grand nombre
sur comment je bricole ce petit podcast et cette petite newsletter que nous aimons tant.
Comme Yves. Yves Montand. Bien, du coup, lançons-nous. La première question, c'est comment te sont venues l'idée et l'envie et l'énergie de faire ce podcast? Alors, l'idée, elle vient, je l'ai raconté dans l'épisode 0 de la toute première saison, mais l'idée, elle vient d'une pratique qu'on avait avec des potes, qui était de s'envoyer des vocaux en soirée sur le chemin du retour, où on partageait nos émotions, en fait, par rapport à ce qui s'était passé. Donc on disait pas tiens voilà on va partager nos émotions, mais c'était souvent quand tu fais un vocal quand tu rentres de soirée, c'est que t'es un peu dépité, et donc du coup c'était un peu nos fails quoi, et comment on se sentait, et on essayait un peu de se requinquer sur j'ai 50 ans sur ce qu'on racontait, se soutenir. Et un jour il y a un pote qui a écouté un de ces vocaux qu'on s'était envoyé alors qu'il était avec une meuf avec qui il avait passé la nuit, qu'il connaissait pas. Et la fille lui a dit « Mais c'est dingue, vous parlez comme ça entre hommes, je pensais que vous parliez pas de vos émotions ni de vos sentiments. » Et quand ce pote m'a rapporté ce qu'elle pensait, je me suis dit « C'est pas possible qu'en 2018, à l'époque, on était en 2018, on sépare encore les genres de cette manière aussi catégorique, genre les femmes parlent énormément de leurs sentiments, ce qui d'ailleurs n'est pas spécialement vrai, hein, et les hommes ne parlent pas du tout de leurs émotions. » Et je me suis dit « Ok, moi je parle énormément de mes émotions avec mes amis, et j'aimerais que ça soit rendu public pour encourager d'autres hommes et même d'autres gens, en fait, peu importe leur genre, à faire de même. » Donc l'idée, elle est venue de ça, c'était très simple, et c'était couplé aussi au fait qu'il y avait beaucoup de podcasts sociologiques sur les hommes et la masculinité, et moi je voulais offrir un autre point de vue plus horizontal, plus quotidien de tous les jours, dans une discussion, à un apéro, quoi, comment on se parle quand on se sent bien. Et enfin, le dernier point, c'est que je voulais qu'il y ait un homme qui puisse parler aux hommes, et aussi aux femmes, mais en tout cas, je voulais qu'il y ait cette relation d'égal à égal, et il n'y avait pas de podcast à l'époque où c'était des hommes qui parlaient de la masculinité et pas sur le prisme des émotions. Donc voilà. Ensuite, l'envie de faire un podcast, c'est parce que c'était le format le plus évident, parce que c'est le plus intimiste. Et ça vient aussi d'un goût personnel pour le son. Moi, je suis musicien à la base, donc j'ai toujours aimé cet univers du son. Et j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais petit, donc je pense que ça m'a teinté, en fait, ça a teinté mon envie. Voilà pourquoi le podcast, il n'y a eu aucun autre enjeu que ça. Et ensuite, l'énergie. Elle vient honnêtement du plaisir à le faire. C'est tout bête, mais j'adore enregistrer, j'adore trouver des sujets, j'adore poser des questions, écouter les réponses, j'adore rire aussi, c'est aussi ça mise à mal, et j'adore aussi tout ce qui s'ensuit, le montage, même si c'est fastidieux, ça me plaît énormément, et j'aime m'améliorer aussi dans ces pratiques-là, toutes celles que je viens de citer, et aussi tout le reste, les réseaux sociaux, je travaille beaucoup la DA, ce qu'on appelle donc la direction artistique, quoi, le graphisme, c'est moi qui fais les images et ce qui est posté sur Instagram, même si à la base Théo et moi, donc l'ami avec qui j'ai lancé mise à mal et fait la première saison, on avait beaucoup travaillé sur l'identité et on s'était fait accompagner par une graphiste géniale qui a fait un travail extraordinaire sur lequel moi je me base toujours aujourd'hui. Mais voilà, l'énergie, elle vient surtout du plaisir à rencontrer, à discuter, à partager et à créer. Est-ce que tu as toujours voulu faire un podcast? Non,
Je crois pas du tout, c'est un peu un accident. C'est juste que c'était le format qui me faisait le plus kiffer. Et donc du coup, je me suis lancé là-dedans. Et j'adore en fait. J'ai pas toujours voulu faire un podcast. Par contre, j'ai toujours été fasciné par la radio libre. Pour toi, c'est quoi le but de ce podcast? Et t'aimerais que ça change quoi? C'est une excellente question et je pense que ça devrait être la question fondatrice à tout projet et encore plus à tout projet de création. Et c'est vraiment la question que je me suis posée au tout début, avant même de savoir que j'allais en faire une émission. Je me suis demandé qu'est-ce qui mériterait d'être changé dans ce que je constate autour de moi. Quel est le manquement qui provoque le plus de souffrance, déjà pour moi, mais aussi dans mon entourage. Et moi, ce qui me préoccupait et me préoccupe toujours, c'est cette violence dans l'automatisme de certains de nos comportements ou de nos pensées. Qui viennent d'un rôle qu'on se donne inconsciemment ou qu'on hérite inconsciemment. Et donc le but de ce podcast, c'est de redonner de la nuance dans nos manières de concevoir les choses pour agir différemment, pour se parler différemment, mais déjà à soi-même et puis ensuite aux autres, et de redonner du mouvement en fait, de dérigidifier les rôles qu'on a pris sans le vouloir et de ramener un peu plus de l'authenticité, donc de l'unicité, donc de l'apaisement dans nos interactions. Et donc j'aimerais que ça change quoi ? J'aimerais que ça change la communication, déjà de soi à soi. Moi je crois vraiment en ce pouvoir de l'introspection, et d'ailleurs c'est prouvé scientifiquement que plus on bosse sur soi, sur son introspection, plus ça stimule la zone du cerveau qui est responsable de l'empathie. Donc le fait de se connaître soi-même muscle cette capacité qu'on a à connecter aux autres, et donc plus on se fait du bien, plus on est en capacité à faire du bien aux autres, ce qui est quand même extraordinaire. C'est la définition même de gagnant-gagnant, quoi. Et j'aimerais aussi que ça change la communication entre nous, interpersonnelle. J'aimerais qu'il y ait plus de sincérité dans la manière dont on s'exprime, qu'on sorte un peu des lieux communs et qu'on ramène à notre expérience propre, à ce qui fait notre originalité, notre unicité. Et parce qu'en plus, je pense qu'il n'y a pas de mauvais fond, que la méchanceté, c'est un mode de dernier recours. Donc si grâce au podcast, ou en tout cas à la démarche qu'il y a derrière le podcast, on peut réussir à se parler plus sincèrement, pour moi c'est mission accomplie quelque part. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, bah grâce à tes épisodes ou tes sujets de newsletter, j'ai osé engager la conversation avec un ami, avec mon partenaire, etc. Et ça, je trouve que c'est le signe que c'est un effet boule de neige positif. Quel est le premier podcast que tu as écouté slash kiffé? Je pense que c'est Nouvelle École d'Antonin Archer. C'était un podcast où il rencontrait des gens qu'il admirait pour leur demander comment ils avaient fait. Et j'avais adoré sa démarche parce qu'elle était très humble en fait. Il posait des questions à des gens qu'il admirait. Il avait vraiment la sincère envie de comprendre, de choper les ingrédients qui font que ça marche, quoi. Et donc j'ai adoré sa démarche. Et puis j'ai aussi adoré pouvoir écouter des histoires de ces gens qui ont réussi dans différents domaines. Ce qui était ouf dans ce qu'il faisait, c'est qu'il rencontrait des sommités, quoi. Moi, l'épisode où il a rencontré Gringe, je me suis dit, c'est dingue. Il a un podcast et du coup, il peut rencontrer un artiste comme Gringe. Je trouvais ça fou. Donc cette proximité-là qu'offrait le podcast, moi, m'a énormément plu. Et après, il y a deux autres podcasts qui m'ont marqué. Il y a eu le Floodcast de Florent Bernard et d'Adrien Méniel, parce que c'était pareil, une discussion très simple avec des créateurs. Donc ils parlaient pas spécialement de la création, mais dans leur approche, ça m'intéressait de voir comment ces gens-là pensent devant un micro quand ils sont détendus et qu'ils ont le temps de s'exprimer. Et l'autre podcast, le troisième, on va dire, c'est Rivière à détente d'Henri Michel. Donc même s'il y a eu des polémiques autour d'Henri Michel, j'adore ce qu'il a pu produire, surtout les premiers épisodes. Voilà, il y a une forme d'humour absurde qui me plaît beaucoup, et aussi cette volonté de se retrouver entre potes, d'allumer les micros et de voir ce qui se passe quand on lâche les freins. Ça, je trouve ça absolument génial. Est-ce que t'es plutôt sucré ou plutôt salé? Alors, moi je suis plutôt sucré, et je recommande les mi-cuits végétaux de Monoprix. Je sais que j'en parle beaucoup sur Instagram, mais c'est une passion, je crois que j'ai développé une passion pour ce produit. Et donc si vous travaillez chez Monoprix, ou vous connaissez quelqu'un chez Monoprix, je plaisante pas, je veux être égérie des mi-cuits végétaux Monoprix. Voilà, envoyez-moi un mail, un DM, appelez-moi la nuit, y a pas de problème. Es-tu heureux du développement du podcast ? énormément, très heureux, très surpris, et je vais être honnête, un peu flippé, pas parce que ça augmente, ça c'est génial, mais je crois que j'ai encore un peu un syndrome de l'imposteur de me dire wow, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça augmente autant, j'ai peur que du jour au lendemain les gens, bah, en fait vous quoi, vous disiez mais en fait pas si bien, c'était un accident que j'écoute, et que vous partiez, vous partez pas s'il vous plaît. Donc voilà, j'essaie de tempérer cette peur là, parce que je pense que c'est cette peur qui nous fait basculer dans une forme de rigidité où on essaie d'appliquer une recette. J'essaie de m'en détacher et de me concentrer sur le plaisir que j'ai à faire ce podcast. Mais ouais, le podcast il se développe de ouf. Sur Instagram, j'ai vu une croissance de 400% depuis le début de l'année, là, depuis que j'ai repris le podcast en janvier 2021. Et en termes d'écoute, depuis janvier 2021, c'est x5 et bientôt x6. Et ça me fait hyper plaisir parce que ça veut dire que le message, le format et la manière dont je l'apporte aussi, hein, dont j'essaye de le créer en tout cas, parle. Et c'était vraiment ça le but, c'était d'être un compagnon, quoi, d'accompagner. Et le fait que vous soyez de plus en plus nombreux à écouter et à recommander autour de vous, bah, ça veut dire que je touche quelque part un peu le cœur de ce qui fait votre vie. Toute proportion gardée, évidemment, mais ça, c'est incroyable. Et donc, merci beaucoup, parce que c'est grâce à vous que ça se développe aussi. Alors là, je vais prendre trois questions en même temps, parce qu'elles sont à peu près pareilles. Bosses-tu à 100% sur ton podcast ? Deuxième question, c'est vis-tu du podcast ou autre chose à côté ? Et si oui, de quoi ? Et la troisième, c'est est-ce que tu penses en vivre un jour ? Alors, est-ce que je suis à 100% sur le podcast ? Non, parce que j'ai une activité à côté de freelance, dans la communication, le branding et la création. Et je bosse aussi sur d'autres projets. C'est un peu une phase d'investissement sur la création, quoi, que je suis en train de faire. J'ai aussi d'autres idées de podcast et aussi de création plus visuelle. Création plus dans la vidéo, mais ça prend énormément de temps, donc j'essaie de poser mes concepts pour l'instant et ensuite de m'aménager un temps pour 2022 pour créer ça, parce que ça ne rapporte absolument rien dans les phases dans lesquelles je suis, donc il faut que j'arrive aussi à vivre. Et je peux pas en dire plus pour l'instant parce que j'ai pas envie de créer des attentes. Et ensuite, est-ce que je vis du podcast ? Non. Il commence à me rapporter un tout petit peu d'argent grâce à Acast, qui est mon nouvel hébergeur et qui est aussi ma régie publicitaire, donc qui va chercher des annonceurs pour placer des pubs dans mes épisodes que vous avez pu entendre. Et alors ça me rapporte un peu d'argent, ce qui est assez cool dans le sens où je vais pouvoir acheter du nouveau matos, je vais tout réinvestir pour que les invités se sentent bien aussi. C'est surtout ça mon principal enjeu, parce que je pense que s'ils se sentent bien, ça fait un épisode de qualité aussi pour vous. Et je trouve que Acast a une approche de la publicité qui est assez éthique. Ils m'ont demandé quel secteur d'activité je ne voulais surtout pas à qui je ne voulais surtout pas donner la parole. Ils ont un algorithme qui fait que vous ne serez jamais bombardé de publicité, donc ça c'est vachement bien, et pas trop des mêmes publicités non plus. Donc moi c'est quelque chose qui me parle, et le fait aussi de pouvoir encourager les créateurs à vivre de leur création, ça c'est vachement bien, même si moi j'en vis pas, ça donne des perspectives qui sont hyper agréables à envisager, quoi. Voilà, donc est-ce que je pense en vivre un jour, la dernière question, bah je ne pense pas, mais j'espère. Et donc du coup c'est un drôle d'entre deux, parce que je crois que je m'autorise pas encore à me dire que je vais en vivre, aussi parce que j'ai pas envie de me crisper sur ce truc genre ah, il faut que j'en vive, et donc du coup plus rien ne compte. Moi j'ai d'abord envie de me faire kiffer, de vous faire kiffer, et aussi de faire kiffer mes invités. Beaucoup de fois le mot kiffer, j'ai failli cracher sur le dernier. Voilà, donc j'essaie de pas trop me crisper là-dessus, mais idéalement, si je pouvais être payé genre confortablement pour ce que je fais, mais je serais le plus heureux du monde. Qu'est-ce qui t'attire dans le milieu du podcast ? Alors, je commence à connaître le milieu du podcast, mais jusque-là, c'était juste moi dans ma chambre en fait. Donc je commence à rencontrer d'autres créateurs et créatrices, et ça, c'est génial. Donc le premier truc qui me plaît dans le podcast, c'est la liberté de ton. On est encore à un espace où on peut créer hyper librement, et ça, il faut en profiter, pas pour faire de la merde, mais au contraire pour prendre des petites tangentes par rapport à ce qui est trop entendu. Oh là, je fais des liaisons n'importe comment. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, ce qui me plaît dans ce milieu-là, c'est la proximité de rencontrer d'autres créateurices. Ça, c'est génial, mais aussi de pouvoir rencontrer des gens que j'aurais jamais avec qui j'aurais jamais pensé pouvoir parler. Typiquement l'épisode avec Eric Flagg, qui est un mec que je suis depuis des années dans le sport. Ça, c'était incroyable de le rencontrer via le podcast. Il y a eu aussi Lucas Lacho, que je suis depuis une dizaine d'années. Récemment, Sébastien Cardinal, qui est donc quelqu'un de très connu dans le milieu du véganisme. Voilà, l'épisode sort le 3 janvier, j'en profite pour le placer là. Ça, c'est assez fou, cette proximité-là, et j'espère pouvoir continuer à rencontrer des gens, parce que vraiment, une des grosses parties du kiff, c'est de pouvoir échanger de manière très spontanée et libre et sincère. Pourrais-tu vendre ton concept à un studio si on te le proposait ? Donc, vendre mon concept, c'est-à-dire si je devais le lâcher, jamais de la vie, vraiment. Si ça consiste à dénaturer ce qu'est l'émission Jamais de la vie. Par contre, si un studio venait me voir en me disant bah, « Écoute, on veut te produire pour que tu continues de faire exactement ce que tu es en train de faire », là, je pense que je dirais oui. Mais je pense, par exemple, que je demanderais à ce que ça continue à se faire chez moi. Même si il peut y avoir du meilleur matos en studio, bah j'aime bien en fait pouvoir inviter chez moi, on s'ouvre une bouteille et on passe la soirée à discuter. Voilà. Donc je suis pas opposé au principe du moment que ça ne brise pas ce qui fait l'essence de Mise à Mal. Donc du moment que ça c'est préservé, moi je suis ok d'être produit. Donc, j'espère que tous les producteurs m'ont bien entendu. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon podcast ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas en écouter un plus qu'un autre ? Ça, c'est une excellente question. Pour moi, à cet instant, je vois trois ingrédients. Le premier, c'est le concept slash l'intention. Pourquoi je mêle les deux ? Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'un concept ultra fort, ultra différenciant. Par contre, je pense qu'il y a besoin de sincérité dans l'approche de ce concept, donc en fait quelque part quelque chose d'unique, et ça vient de l'intention, parce que l'intention en fait elle est unique. Le deuxième, c'est la qualité de l'audio. Moi je sais que je mets énormément de soin à traiter l'audio, je mixe, je masterise, je fais attention aussi dans ma captation de son lorsqu'on enregistre. Même si c'est pas toujours parfait, je pense que c'est très important. Le podcast, c'est un média où il n'y a qu'un seul sens qui est stimulé. Et donc, du coup, il faut le choyer. Voilà.
Dorloter les oreilles de vos auditorices.
Le troisième ingrédient, je dirais que c'est le rythme. Et ce qui va faire que je vais aller vers un podcast plus qu'un autre, ça va être l'ambiance. Honnêtement, le concept peut être claqué. Ça peut être un truc, un podcast sur les girolles. Moi, du moment que l'ambiance est agréable, et aussi du moment que la démarche est sincère, c'est vraiment, et je pense que ça transparaît, je sais pas comment le dire, mais ça se sent, bah ça, go banco, hein, j'y vais. Est-ce que tu as eu des déclics ou des illuminations dans ta vie ? Je sais pas si j'ai eu des illuminations, j'ai eu des déclics, bon, mais un déclic, c'est aussi l'aboutissement hein, d'un travail plus long. C'est pas juste un moment de grâce qui arrive par hasard, c'est aussi une partie du cheminement, quoi. C'est juste qu'elle est plus visible au moment où on a des réalisations. On peut dire, tiens, je pense que ça, il y aura un avant et un après. Là, moi, j'en ai retenu trois spontanément. Le premier déclic, ça a été sur le véganisme, le fait de devenir végane. Et je sais pas, voilà, je vais pas faire du prosélytisme dans ce podcast du tout. C'est juste que ça a été un moment fort pour moi de ma vie, qui m'a mené aussi à faire ce podcast, je pense. Même si le lien comme ça peut paraître un peu aberrant. Mais le véganisme m'a amené à me poser beaucoup de questions sur la manière dont on consomme, la manière dont on conçoit le vivant et donc les formes de domination qu'il y a. Le deuxième déclic, ça a été sur le sport et notamment la musculation. J'avais vraiment d'énormes a priori sur la musculation parce que pour moi, c'était un truc d'homme toxique, vaniteux. Et en fait, j'ai appris à beaucoup m'aimer avec cette pratique-là, à accepter mon corps, et aussi ça m'a appris une autre temporalité qui est pas que celle de l'esprit et de la volonté, mais aussi du travail, de la discipline, et aussi un goût de l'effort et de l'acceptation de la limite physique. Donc pour tout ça, ça a été assez déterminant pour moi, cette découverte là et enfin, un dernier déclic, il a été romantique et relationnel. Ça a été de travailler en thérapie, hein. D'abord sur mon rapport aux femmes et à la séduction, et puis sur mon rapport à l'engagement. Et je suis encore un peu pudique d'en parler, je pense que j'ai pas suffisamment le recul, mais j'y consacrerai des épisodes dès cette saison 3. De quelle aide aurais-tu besoin pour développer ton podcast ? Quelle tâche tu voudrais déléguer ? Moi, je pense que j'aurais besoin d'aide en termes de visibilité. Donc j'aurais besoin que le podcast soit plus connu. Et je dis ça sans délire d'ego, hein. C'est juste que j'y mets tellement de soin et je crois en cette parole apaisée, simple, honnête autour d'un micro entre potes, quoi, que je me dis, bah voilà, je serais hyper content si c'était plus connu. Donc de l'aide au niveau de la notoriété, de la visibilité du podcast, ça, ça serait fou. Donc en fait, de l'aide en marketing, quoi. Et ça passe aussi par de l'aide financière, parce que c'est difficile de faire connaître quelque chose gratuitement. Donc voilà, il y aurait besoin de ça. Et quelle tâche voudrais déléguer ? Bah ça, je pense, cette, ce travail de visibilité. Je pense que c'est du travail de relations de presse pour gagner un... ou de relations influence, quoi, je sais pas comment on appelle ça, pour gagner en visibilité. Parce que tout le reste, j'adore le faire. Le montage, c'est le truc qui me prend le plus de temps et qui est le plus fatigant. Mais c'est là où je trouve avoir le plus progressé et amener le plus de valeur, donc je serais pas prêt du tout de le déléguer pour l'instant, ou alors faudrait quelqu'un qui bosse avec moi depuis longtemps et qui comprenne comment j'aime qu'un épisode soit monté, parce que aujourd'hui j'ai changé de méthode de montage. À chaque truc que j'écoute dans un épisode, je me demande qu'est-ce que l'auditeur, l'auditrice va en tirer. Et je pense que c'est cette méthode de montage et l'expérience maintenant de, d'avoir eu contact avec vous qui fait que je peux répondre de mieux en mieux à cette question et donc vous offrir le meilleur de la discussion qu'on a eue. Voilà, donc le jour où quelqu'un saura faire ça, je pense que je serai très content de déléguer le montage en termes de temps. Et aussi le graphisme, donc c'est quelque chose que j'adore faire, mais c'est pas mon métier premier, donc j'avoue que je bricole pas mal, et surtout je suis vite limité en termes de créativité. J'adorerais qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne sur la représentation graphique de ce que je propose, surtout parce que j'ai plein de projets qui vont allier l'image, mais pour l'instant c'est des projets que j'ai en tête et je vois pas comment les faire parce que j'ai pas ces compétences-là. Est-ce que tu trouves l'audience que tu cherchais ? Alors, je vais faire une réponse de filou, mais honnêtement, j'espère surtout que l'audience a trouvé en mise à mal le podcast qu'elle cherchait. Et je veux vraiment pas faire cette phrase pour dire « Oups là, j'ai fait une pirouette, je suis trop élégant », mais honnêtement, j'avais pas d'audience prédéfinie en tête. Quand j'ai lancé le podcast, je pensais vraiment que ça allait parler aux hommes, et il s'avère que alors ça parle aux hommes de plus en plus maintenant. Mais au début, ça a été une audience à 80-90% féminine. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes, et ça, je suis content, mais j'ai pas spécialement d'objectif, en fait, à ce que les hommes écoutent. Maintenant, je me dis, j'espère juste que les gens, que ça soulagera ou que ça apaisera d'écouter Mise à Mal, trouvent le podcast. Et c'est devenu non-genré. Donc, en termes d'audience, est-ce que je l'ai trouvé ? Oui, aussi, parce que dans les échanges qu'on a sur Instagram, vous êtes vraiment... hyper bienveillant, et ça, je trouve ça formidable. Moi, ça me fait beaucoup de bien de discuter avec vous. En ça, je pense avoir trouvé mon audience, entre guillemets, parce que ça n'existe pas trop. Et j'espère qu'elle continuera de grandir avec les qualités que je lui connais actuellement, parce que c'est vraiment très agréable d'avoir contact avec vous, en tout cas digitalement. Est-ce qu'il y a des choses que tu raconterais jamais à tes potes ? Ouais, honnêtement, ouais. Des choses de l'ordre du fantasme, et alors là il y a un peu de fantasme sexuel parce que je trouve que ça les regarde pas trop, mais aussi lors du fantasme professionnel, c'est-à-dire mes espoirs que j'ai, mes aspirations très très profondes. Il y a des choses que je partage pas, et c'est pas spécialement bien, hein, parce que c'est une forme de pudeur mal placée. Donc je pense que ça me ferait du bien de le partager, surtout à des gens à qui j'ai confiance, parce que je pense que la peur de pas partager, enfin la peur qu'il y a derrière pas partager, elle vient du fait qu'on a peur que l'autre détruise ce qu'on a osé mettre dehors, en dehors de soi, et qui est très précieux. Mais si c'est vraiment des potes, ils en feront rien. Et s'ils font ça, fou les tèches. Mais je pense aujourd'hui, moi, avoir un environnement de proches, un entourage suffisamment bienveillant pour pouvoir partager certaines choses. Mais il faut d'abord que je les assume auprès de moi-même. Donc c'est un boulot que j'ai d'abord à faire à moi, avant de leur parler. Mais sinon... Non, il n'y a pas grand-chose que je partage pas à mes potes, et je pense que c'est justement de là d'où est né le podcast. C'est parce que j'ai ces rapports-là avec mes amis, et je les en remercie parce que c'est exceptionnel, que je suis ravi de les inviter dans le podcast, et que ça fait des conversations hyper intéressantes pour moi, mais aussi visiblement pour vous. Donc non, pas grand-chose que j'oserais pas raconter. As-tu déjà pleuré en présence d'un ami ? Et donc il n'y a pas de point inclusif, donc c'est vraiment un ami homme. Oui, j'ai déjà pleuré. La fois qui me vient en tête là, c'était il y a longtemps, j'avais 17 ans, Et mon premier amour, quand elle m'a quitté, j'ai écrit un SMS à un pote qui habitait à côté de chez moi. Et c'était un peu le pote hyper musclé, un peu bourru, qui partage jamais rien de ses sentiments à part pour dire des grosses conneries. Et il m'a répondu tout de suite, j'arrive. Et quelques minutes plus tard, il était là et il m'a rien dit. Je pense qu'il a vu sur mon visage. Et il m'a pris dans ses bras et j'ai pleuré. Ça, c'est la foi peut-être la plus forte. Mais sinon, avec mes amis, et notamment avec Florestan, ça m'est arrivé de pas mal pleurer. Parce que voilà, soirée alcoolisée, donc du coup, je pleure beaucoup plus quand je suis bourré. Parce que je pense que je me retiens dans la vie de tous les jours. Ben oui, hein, y a encore des choses à déconstruire sur ma propre masculinité. Voilà, mais sinon, je pleure beaucoup en présence de mon amoureuse. C'est quelque chose qu'elle, par sa présence, qu'elle m'autorise à faire et qui est vraiment libérateur pour moi. Qu'est-ce que tu as appris depuis le lancement de Mise à Mal ? J'ai énormément appris sur l'importance de l'intention. Je sais que je le répète, mais je pense que c'est tellement intangible que je vais essayer de l'expliquer sous un autre angle. Mais en gros, si ton intention te dépasse, c'est-à-dire que si c'est pas auto-centré sur toi ou sur les bénéfices que tu vas en tirer, il y aura forcément des gens à qui ça va parler, que ça va toucher. Et donc ton projet va avoir une vie, sans parler de délire de célébrité ou quoi, mais il va avoir une vie, et ça c'est déjà énorme. Je me rappelle des tout premiers auditeurs qui étaient hors du cercle d'amis proches, ça a été fou en fait, de se dire il y a des gens que ça touche, que je connais pas, et à qui ça parle. Donc ça c'était juste le pouvoir de l'intention qui faisait qu'on pouvait se connecter à un niveau plus profond qui nous relie. Ce que j'ai appris aussi, c'est que c'est ok d'oser. Moi, même encore aujourd'hui, là, cette FAQ, là, c'est oser. J'ose des formats sur Instagram, j'ose beaucoup de trucs. Et en podcast, je vais oser de plus en plus sur Mise à Mal et d'ajuster, de voir si ça plaît, ça plaît pas. Et d'abord à moi. Puis si ça vous plaît à vous, ça c'est. Enfin voilà, c'est cette adéquation-là qui est incroyable à vivre. Donc oser et oser se lancer sans que ça soit parfait, parce que c'est vraiment en faisant. Je sais que c'est un truc de développement personnel, mais c'est vraiment en faisant qu'on ajuste. C'est-à-dire que moi, il y a des trucs que je fais où je me sens pas à l'aise. Après coup, j'analyse pourquoi et je corrige. Soit parce que c'était pas un truc à faire et j'arrête. Soit parce que j'avais une posture qui était pas tout à fait bonne ou c'est pas tout à fait le bon format, etc. Donc j'ajuste. Et ça, on peut se le permettre en podcast parce que c'est très libre. On peut se le permettre aussi en digital sur les réseaux sociaux. En tout cas, au niveau où j'en suis, parce que rien n'est définitif. Le digital permet ça, cette marge d'essai et d'ajustement. Donc oser, et aussi oser se connecter aux autres. Moi, j'ai contacté des gens que j'aurais pas osé faire avant, mais ça m'a appris que, encore une fois, si tu arrives avec un sincère intérêt pour l'autre, il y a très peu de chances qu'il te taise. Et ça a été un énorme apprentissage pour moi. Et l'autre aussi, c'est dans le travail collaboratif, c'est de se connecter pas tant sur l'enthousiasme du projet, même si évidemment ça compte, mais c'est aussi sur une éthique de travail, un rythme de travail compatible. Combien de temps par semaine ça te prend le podcast ? Parce que t'es super productif, actif et présent. Mais alors c'est marrant parce que moi je me trouve pas si actif que ça, et je crois que c'est un peu un biais. J'ai peur de pas en faire assez, et c'est pas en termes de volume, mais c'est aussi en termes de qualité. Je suis tellement concentré sur ce qu'il y a à faire de mieux. Je dénigre pas du tout ce que je fais, hein, du reste, ni ce que j'ai fait. J'ai de la tendresse pour ce que j'ai produit. Quand je réécoute les tout premiers épisodes de Mise à Mal, c'est un peu difficile des fois, mais je me dis c'est comme ça que je me suis construit, quoi, que j'ai construit cette émission et tout, donc c'est ok. Mais j'ai pas l'impression d'être super actif, et je veux en faire plus ou différemment ou plus qualitativement. Donc c'est voilà. Ceci étant dit, combien de temps ça me prend par semaine? C'est un problème que j'ai, c'est que je ne quantifie pas mon taf. Honnêtement, en termes de montage, ça doit me prendre une dizaine d'heures parce que je fais des épisodes très longs. C'est 2h30 en général de discussion, 2h, 2h30 pour 50 minutes utiles, donc 50 minutes d'épisode au final. Parce que il y a plein de choses qu'on dit qui sont pas gardées mais qui participent au moment, et c'est d'abord ça aussi. Moi, j'essaie de créer un moment pour les invités. Donc il y a plein de trucs qu'on partage qui sont pas pertinentes entre guillemets à livrer telles quelles, mais qui sont hyper enrichissantes pour nous, déjà d'un point de vue humain entre nous là, mais aussi qui créent l'ambiance, qui créent l'intimité, pour quand on aborde des sujets qui sont partageables, bah, ils viennent avec vraiment beaucoup de sincérité quoi, et de tendresse aussi entre nous quand on s'écoute. Donc une dizaine d'heures de montage, et après sur la création des visuels, je sais pas, je dirais ouais, on rajoute peut-être une heure ou deux par semaine. Et après il y a tout ce qui est de l'organisation, tout ce qui est de temps de tournage, donc l'orga, trouver des sujets, ça va me prendre peut-être une ou deux heures par semaine, les temps de tournage, donc ça va me prendre 2h30 plus le moment qu'il y a autour, puisqu'en général on boit une bière avant, on mange après ensemble, donc ça va être 4h quoi. Et il y a aussi tout ce qui est nouveau concept. Je réfléchis énormément en ce moment à comment animer différemment Instagram, mais aussi à comment proposer de nouveaux formats, en plus de celui que vous connaissez évidemment, mais sur la chaîne. Donc ça va me prendre peut-être, ouais, je sais pas, 2 heures par semaine. Et un truc que j'avais pas vu, mais l'animation des réseaux sociaux, prendre le temps de faire des stories et de vous répondre, parce que je reçois beaucoup de messages et j'adore ça, et je veux que chaque réponse soit personnalisée, donc je prends le temps de vous lire, de vous comprendre et de vous répondre. Ça me prend peut-être ouais, 1 heure ou 2 par jour. On rajoute à ça la newsletter qui doit me prendre une dizaine d'heures par numéro. Je pense qu'au global, sans mise à mal, on est à 30-35 heures par semaine. Mais en le disant, j'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup. Mais comme quoi, le fait, ce que je disais en tout début, le fait d'avoir autant d'énergie à le faire, ça me fait pas avoir l'impression que j'en fais tant que ça. Ce qui est plutôt cool. Il me reste encore 2 questions. Comment est-ce qu'on fait pour être invité? Qui était une question, j'ai l'impression, un peu blague et un peu pas trop blague, parce que je reçois pas mal de messages, de plus en plus de gens qui me disent est-ce que je peux venir dans ton émission? Et ben, en fait, j'ai créé Mise à Mal avec l'envie de parler à des gens lambda, et il n'y a rien de grossier dans le fait de dire lambda, mais des gens qu'on croiserait dans la rue, quoi. Et donc je m'inclus dedans, hein, parce que je suis lambda et je marche dans la rue, ça m'arrive, hein. Donc c'est vraiment une volonté de cette saison 3 et encore plus après de vous rencontrer. Et donc là je le dis, venez m'écrire. Je suis en train de penser à des nouveaux concepts, je dis pas que ça va aboutir tout de suite, je dis même pas que ça va aboutir du tout, mais venez m'écrire, partagez-moi votre histoire si vous êtes à l'aise, et moi ça me permet aussi d'alimenter la réflexion autour de la création de nouveaux concepts. Donc voilà comment faire pour être invité potentiellement dans Mise à Mal. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022? Bah, on peut me souhaiter que le podcast fasse x 10 000 millions. Allez, 10 millions. Non, j'ai bah ouais, on peut me souhaiter que le podcast grandisse en termes d'auditorat, en termes de visibilité, qu'il y ait des retombées médias, etc. Donc ça serait le top du top. Et puis souhaiter aussi que les créations sur lesquelles je suis en train de bosser aboutissent. Et j'espère pouvoir vous en parler plus précisément bientôt. Mais ça serait dingue quoi, de pouvoir vivre de la création. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse me souhaiter pour 2022. Voilà pour cette petite FAQ. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. J'espère que le format vous a intéressé. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette fin d'année et encore plus meilleur pour 2022. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, en fait, pour un épisode standard, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un épisode standard? Non, ils sont tous exceptionnels. De Mise à Mal, qui sera sur virilisme et véganisme. Je vous embrasse fort et je vous applaudis avec le cœur.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.